Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Deuxième long métrage de Stanley Kubrick, 1980, adapté du best-seller Shining de Stephen King. Best-seller, si on peut dire, puisque au moment où Kubrick décide d'adapter le film, le roman n'est pas encore sorti, puisque la Warner lui envoie le manuscrit des épreuves. Et c'est tout de suite, il va tilter sur ce roman, il va voir dans l'histoire la possibilité de réaliser ce grand film d'horreur auquel il tenait depuis plusieurs années. La grande différence par rapport au livre de Stephen King, c'est, j'allais dire, le point de vue. Le livre de Stephen King est vraiment du point de vue de l'enfant, de Danny, alors que le film de Kubrick, c'est le point de vue du père, Jack, joué par Jack Nicholson. Alors, l'intrigue... vous la connaissez, c'est une famille qui est coincée dans un hôtel pendant tout un hiver parce que le père, Jack, a accepté un travail de gardien. En fait, dans la vie, c'est un prof au chômage, c'est un écrivain qui, après un premier roman, n'arrive pas à écrire un deuxième et qui a vraiment besoin d'argent pour nourrir sa famille et qui donc accepte ce poste de gardien. Le principe, c'est qu'il va être bien payé et il va rester tout l'hiver dans ce palace, l'Overlook Hotel, où il va faire des menus travaux d'entretien, il va faire marcher la chaudière hein, pour que l'établissement ne soit pas gelé, et puis s'il y a des petites réparations à faire sur le toit, etc., il est chargé de faire ça. Bien sûr, il vient avec sa famille, mais donc sa femme Wendy et son fils Danny. Le problème, c'est qu'évidemment, ils vont être isolés.
Mr. Allman ?
Yes ?
I'm Jack Torrance.
Oh, well, come on in, Jack. Very nice to meet you.
Nice to meet you, Mr. Allman.
Have any trouble finding us?
Oh, no problem at all. I made the trip in 3.5 hours.
Wow, that's a very good time.
Les hivers peuvent être effroyablement rigoureux et votre tâche essentielle est de faire face à toutes les détériorations qui pourraient éventuellement se produire. Physiquement, ça n'est pas une place exténuante. La seule chose qui peut devenir éprouvante ici au cours de l'hiver est une terrible sensation d'isolement.
Eh bien, ça tombe à pic, c'est exactement ce que je cherche en ce moment. J'ai un nouveau très gros roman en préparation et 5 mois de tranquillité, c'est tout ce que je demande.
C'est une vraie chance, Jacques. Je suppose qu'on ne vous a rien dit à Denver à propos de la tragédie qui s'est déroulée ici l'hiver 70-71.
Je n'en ai pas le souvenir.
Mon prédécesseur avait engagé un homme du nom de Charles Grady pour le gardiennage d'hiver. Il est arrivé ici avec sa femme et ses deux petites filles d'environ 8 ou 10 ans. Il était réputé compétent, avait de bonnes références, et en croire les gens, il semblait être absolument normal et inoffensif. Mais à un moment donné, au cours de l'hiver, il a dû être victime, le malheureux, d'une espèce de dépression nerveuse. Il est devenu fou furieux. Il a tué sa famille avec une hache. Il a soigneusement aligné les corps dans une des chambres de l'aile ouest, puis il a placé le double canon de son fusil dans sa bouche. La police pensait qu'il s'agissait de ce que les vieux de la vieille appelaient le mal des cachots, une forme de claustrophobie qui se manifeste quand les gens sont enfermés ensemble pendant trop longtemps.
Évidemment, certaines personnes peuvent être effrayées à l'idée de rester dans un endroit où une telle chose a pu se produire.
Eh bien, je puis vous assurer, Monsieur Ullman, que ça ne risque pas de m'arriver. Et quant à ma femme, je suis sûr qu'elle sera absolument fascinée quand je lui raconterai tout ça. Elle adore les histoires de fantômes et les films d'épouvante.
Le ton est donné d'emblée avec cette scène d'entretien d'embauche. Anne Goliolété, on a donc ce personnage interprété par Jack Nicholson, qui s'appelle Jack Torrance, qui vient postuler donc pour ce poste de gardien. Il est accueilli par Stuart Ullman. Alors, première grande différence entre le film et le roman, c'est que dans le roman, vous l'avez dit tout de suite, ce sont les premiers mots, il est traité de petit con prétentieux par Jack Torrance, alors que dans le film, il est plutôt très sympathique, il est en faveur de cette candidature, alors que dans le roman, il lui fait bien comprendre qu'il n'a pas du tout envie que ce soit lui. Et en juste l'espace de ce dialogue-là, le ton est donné. Il est raconté que la famille précédente, leur séjour s'était très mal passé, que le père était devenu fou, avait tué ses filles, sa femme et lui-même. Et on sait déjà qu'on va être dans une sorte d'enfermement. Et Jack dit « Je suis pour, c'est ce que je recherche ». Il y a une volonté de Jack de se faire enfermer, un peu comme nous autres spectateurs qui acceptons de nous faire enfermer dans la salle pour voir ce film alors qu'on sait qu'on va souffrir.
Construction started in 1907. It's finished in 1909.
L'emplacement est censé être situé au-dessus d'un cimetière indien et je crois bien qu'il a fallu repousser quelques attaques d'indiens pendant les travaux.
Ça, c'est la cuisine, hein?
Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle te plaît, Danny? Elle est assez grande pour toi?
Oui. C'est la plus grande que j'ai vue.
Tout cet endroit est un si énorme labyrinthe qu'il me faudra tracer une piste de miettes de pain chaque fois que j'y entrerai.
Vous découragez pas, Madame Torrance. C'est vaste, mais c'est rien d'autre qu'une cuisine. Là, maintenant, nous allons entrer dans la réserve. Ici, Madame Torrance, nous avons rangé toute l'épicerie et aussi toutes les boîtes de conserve. Nous avons des conserves de fruits et de légumes, conserves de poissons et de viande, toutes sortes de céréales, pain grillé, flocons d'avoine, pâte feuilletée, galettes de riz, farine d'avoine, crème de riz et crème de blé. Nous avons une douzaine de pots de mélasse et aussi 60 boîtes de lait en poudre, 30 sacs de 12 litres de sucre et une douzaine de sacs de 25 litres. Et pour faire descendre, nous avons...
Tu aimes les glaces, canard ?
Et cette variété de gâteaux secs. Et puis aussi des pêches séchées, des abricots secs.
Alors, vous vous en sortez?
À merveille.
Dick, je peux vous emprunter Madame Torrance quelques minutes? Je voudrais lui faire visiter le sous-sol. Je vous promets de ne pas la garder trop longtemps.
Il n'y a pas de mal, Monsieur Ullman. J'allais en arriver au rayon des glaces. Tu aimes les glaces, canard?
Oui.
Ah, je m'en doutais. Est-ce que ça vous ennuie que j'offre une glace à Danny en attendant votre retour?
Pas du tout.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. On parle de Stephen King cette semaine, Anatomie de l'horreur à l'écran, et donc de The Shining, le film de Stanley Kubrick qui est adapté donc le roman de Stephen King. Et à la radio, ce qui est formidable, Anne Goriolété, c'est que nous entendons ce qui se passe. Et là, ce que nous venons d'entendre illustre à merveille la phrase de Stephen King dans son livre Anatomie de l'horreur. Il dit « L'horreur est l'intrusion du frisson dans le familier, eh bien, ce frisson, c'est le son, c'est le bruit, c'est la musique qui l'introduit dans cette scène ordinaire d'une visite de cuisine.
Ah bah, écoutez, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Alors, malheureusement, on a entendu la version française.
Mais oui, on peut pas partir du principe que tout le monde maîtrise l'anglais.
Non, mais je dis pas que ce soit forcément non plus mauvais.
Non, d'ailleurs, c'est pas du tout le pire des doublages.
Non, c'est pas le pire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement, ce qui manque ici par rapport à l'anglais, c'est que le personnage du cuisinier, en fait, en anglais, il parle, mais il chante pratiquement. C'est-à-dire, il parle selon une rythmique, une sorte de swing, en quelque sorte, qui n'est pas loin de rappeler mêler un peu le jazz, peut-être, éventuellement. Et bon, peut-être que c'est un peu exagéré, mais si je fais presque un peu de provocation, je dirais que c'est presque un moment, pas de comédie musicale, mais enfin, qui pourrait s'en approcher, en quelque sorte. C'est très, très troublant. Hein. Le son est donc très, très important. Hein, et la musique, chez Kubrick, en général, on sait que Kubrick est non seulement un grand mélomane, mais Kubrick travaille aussi ses films, et pas seulement le son, mais les images aussi, d'une manière musicale.
Avions des conversations, des heures entières sans jamais avoir ouvert la bouche. Elle appelait ça le Shining. Et pendant longtemps, j'ai cru que nous étions les deux seuls à avoir le Shining. Comme toi, tu as cru sans doute que tu étais le seul. Mais d'autres ont ce pouvoir, quoique la plupart l'ignorent ou ne veulent pas y croire. Pourquoi tu ne veux pas en parler ?
Parce que j'ai pas le droit.
Qui dit que tu n'en as pas le droit?
Tony.
Qui est Tony?
Tony est le petit garçon qui vit dans ma bouche.
Est-ce que Tony est celui qui te raconte des choses?
Oui.
Est-ce que Tony t'a déjà dit quelque chose au sujet de cet hôtel?
Il y a quelque chose de mal ici.
Eh bien, vois-tu, canard, quand quelque chose se passe, ça peut laisser des traces comme sur la neige. Non pas des traces que tout le monde peut voir, mais des traces que les personnes qui ont le Shining peuvent voir. De même, elles peuvent voir ce qui ne s'est pas encore produit.
C'est quoi la chambre 237?
Chambre 237?
Monsieur Halloran, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre 237?
Il n'y a rien du tout dans la chambre 237. Et tu n'as absolument rien à y faire de toute façon. Alors, défense d'entrée. Tu as compris, n'y entre pas.
Comment vous définissiez le Shining?
Le Shining, on peut paraphraser ce que dit Halloran, hein, c'est voir ce qui s'est passé, avoir la possibilité parfois de voir ce qui s'est passé, de voir des moments du futur. Mais il me semble que dans le film, en tout cas, c'est traité sur le mode quand même de la frontière, si vous voulez, hein, de la frontière entre les mondes. Ça, je trouve que c'est important. Et cette séquence explique évidemment le titre du film. C'est quand même pas rien. Ah ouais. The Shining, c'est-à-dire c'est le verbe to shine, mais substantivé en quelque sorte. Hein, c'est le Shining, et qui, je trouve ça très très joli quand même, que ce soit la grand-mère du cuisinier qui, voilà, ça, c'est ça l'origine du mot Shining, quoi. Voilà. Donc ici, c'est une séquence qui rationalise, qui explique. Hein, voilà. Maintenant, elle a un autre intérêt, cette séquence, c'est aussi sa construction symétrique. C'est-à-dire qu'au début, c'est Halloran qui pose des questions à Danny, qui lui demande comment se manifeste le Shining pour lui, comment ça se passe, etc., etc. Et à un moment, les rôles s'inversent, c'est Danny qui commence à pousser en quelque sorte Halloran dans ses retranchements en l'interrogeant sur la chambre 237.
Le choix de Kubrick est de dire, puisque on brouille la frontière avec le surnaturel, on repousse le plus loin possible, on est le plus réaliste possible. Alors, l'Overlook Hotel, C'est tout sauf ces hôtels sinistres des films d'horreur où on se demande pourquoi les gens viennent séjourner là. C'est tellement horrible rien que de voir la façade qu'on se dit c'est horrible si on séjourne là. Au contraire, là c'est un palace, c'est la modernité. L'Overlook Hotel reprend la façade d'un hôtel qui existe vraiment dans l'Oregon. Cette façade a été filmée, il y a des plans qui sont utilisés dans le film. Bien évidemment, la façade a été reconstituée, comme tous les intérieurs du film, dans des studios près de Londres, parce que Kubrick, vous savez, était installé, il avait un manoir à 30 km de Londres, et tous ses derniers films, à partir d'Orange Mécanique, il les a tous faits là, reconstituant le Vietnam de Full Metal Jacket, le New York de Eyes Wide Shut, et là, l'intérieur de l'Overlook Hotel. Alors, il y a une équipe, une seconde équipe qui a été filmée des paysages de l'Oregon, du Nevada, du Colorado, qui sont utilisés de temps en temps, mais tous les intérieurs ont été reconstitués. Mais pour être sûr que son hôtel est authentique, que ce ne soit pas une fantaisie opératique de son décorateur, il envoie Roy Walker, qui est son décorateur, qui sera aussi celui avec qui il va travailler sur Eyes Wide Shut, avec une équipe, dont sa fille, Viviane, sillonner tous les États-Unis pour photographier tous les intérieurs des hôtels qui sont de la catégorie, c'est-à-dire les palaces, qui sont de la catégorie de l'Overlook. Par exemple, il y a une scène clé qui se situe dans les toilettes hommes de l'hôtel. Des toilettes incroyables, rouges et blanches. Eh bien, ces toilettes ne sont pas du tout fantaisistes. Elles existent vraiment dans un palace de l'Arizona. Elles ont été conçues par un célèbre architecte qui est Frank Lloyd Wright. Et donc, Kubrick les a fait reproduire à l'identique.
Monsieur Grady, ne vous ai-je pas déjà vu quelque part?
Non, monsieur, je crois pas. Ça commence à partir, monsieur.
Monsieur Grady, n'étiez-vous pas le gardien ici autrefois?
Mais non, monsieur, non, pas que je sache.
Vous êtes un homme marié, sans doute, monsieur Grady.
Oui, monsieur. Oui. J'ai une femme et deux fillettes, monsieur.
Et où sont-elles maintenant?
Elles sont quelque part par là, je ne sais pas au juste en ce moment, monsieur.
Monsieur Grady, vous avez été le gardien de cet hôtel. Je vous ai reconnu. J'ai vu votre portrait dans toute la presse. Vous avez découpé votre femme et vos filles en petits morceaux. Et vous vous êtes brûlé la cervelle.
C'est étrange, monsieur. Je n'ai pas le moindre souvenir de tout cela.
Monsieur Grady, vous avez été le gardien ici.
Je regrette de vous contredire, monsieur. Mais c'est vous qui êtes le gardien. Vous avez toujours été le gardien. Je le sais, car moi j'ai toujours été ici.
Alors, pour jouer Jack Torrance, cet écrivain un peu en panne d'inspiration, alcoolique repentant qui a bien du mal à se tenir. Immédiatement, Kubrick a pensé à Jack Nicholson. C'était déjà lui qui voulait pour son Napoléon, qu'il n'a jamais pu produire, et tout simplement parce qu'il lui semble que c'est le meilleur acteur de sa génération et que c'est l'homme qu'il lui faut.
C'est le désert ce soir ici.
Qu'est-ce que ce sera ?
Eh bien, je suis terriblement content que vous me le demandiez, Lloyd, parce que j'ai justement 2 billets de $20 et 2 de $10 ici dans mon porte-billets. J'avais très peur de les voir y rester jusqu'en avril. Voilà ce que je veux. Vous me filez une bouteille de bourbon, un petit verre et un peu de glace. Vous pouvez le faire, Lloyd, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas débordé ?
Non, monsieur, je ne le suis pas du tout.
Bravo ! Vous remplissez et moi je me les tape, Lloyd. Un par un. Voilà le péché des Blancs, Lloyd, mon pote. Voilà le péché des Blancs. Dites donc, Lloyd, il me semble être momentanément à sec. Est-ce qu'on pourrait me faire crédit dans ce troquet ?
Le crédit que vous voulez, monsieur Torrance.
C'est chouette. Je t'aime bien, Lloyd. Et ça depuis toujours. Tu as toujours été le meilleur, le plus sympathique des barmen de Tombouctou à Portland, Maine. Portland, Oregon, pour être plus exact.
Merci de me le dire.
Je bois à 5 abominables mois d'abstinence et à tout l'irréparable mal qu'ils m'ont fait.
Comment ça va, monsieur Torrance ?
Ça pourrait aller mieux, Lloyd. Ça pourrait aller beaucoup, beaucoup mieux.
Saviez-vous, monsieur Torrance, que votre fils s'évertue à introduire quelqu'un de l'extérieur dans cette situation? Vous saviez cela?
Non.
C'est ainsi, monsieur Torrance.
Qui?
Un nègre. Cuisinier nègre.
Comment ?
Votre fils a un très très grand talent. Je ne pense pas que vous sachiez à quel point. Mais il s'efforce d'utiliser ce même talent pour vous contrecarrer.
C'est qu'il est têtu comme une mule.
Vous l'avez dit, monsieur Torrance, une véritable mule. Je dirais un galopin, si je puis me permettre, monsieur.
Tout ça, c'est à cause de sa mère. Elle s'interpose.
Pour incarner son épouse, Kubrick a tout de suite pensé aussi à Shelley Duvall, qu'il avait repéré dans les films de Robert Altman, notamment Nashville et 3 femmes. Il aimait son excentricité. Il aimait son excentricité, qui fait un pendant, du coup, à cette espèce de rage rentrée de Jack Nicholson.
Pourquoi ?
Je veux juste retourner dans ma chambre.
Pourquoi ?
Je sais plus où j'en suis. J'ai besoin d'être seule pour pouvoir réfléchir.
Tu as eu toute ta foutue chaîne de vie pour t'exercer à réfléchir. Tu crois que 5 minutes de plus vont te suffire maintenant?
Rejoins-moi. Je t'en prie. Ne fais pas le mal.
Je ne te ferai rien.
Wendy,
ma chérie, éclatante lumière de ma vie, je ne te ferai rien. Tu ne m'as pas laissé finir ma phrase. Je disais, je ne te ferai rien. Je vais simplement te défoncer la gueule. Je vais te faire un grand trou par où je t'enfilerai.
Ne fais pas de mal.
Je ne vais pas te faire de mal.
Je t'en prie.
Cesse de faire des moulinets.
N'avance pas.
Pose cette batte, Wendy.
Arrête.
Wendy, donne-moi la batte.
Je t'en prie. Arrête-toi.
Donne-moi la batte.
Laisse tuer.
Donne-moi la batte.
Ne m'approche pas.
Cesse de faire des
moulinets. Je vais t'arrêter.
Donne-moi la batte.
Reste tuer.
Wendy,
Jacques.
Donne-moi la batte.
T'approche-moi.
Donne-moi la batte.
Je vais parler un petit peu de l'article de Francis Vanois là, dans notre livre, parce que lui a beaucoup travaillé sur cette notion, de cette distinction en tout cas entre l'horreur et la terreur. Hein. L'horreur, bah, c'est plutôt l'exorciste, si vous voulez, le film d'horreur, disons. Et dans Shining, alors bien sûr, il y a des moments où on a peur. Hein. Alors l'horreur, c'est quoi? C'est le sang, c'est les corps ensanglantés des petites filles, c'est Jack tuant Alorane à coups de hache, etc. Il y a effectivement des moments d'horreur comme ça. Mais finalement, ces moments sont extrêmement courts. Hein. Oui. Je pense aussi aux visions horrifiques, la vague de sang, etc. Mais ce sont des moments, des images très très courtes qui sont pratiquement, pour certaines d'entre elles, des flashs. Kubrick transmet les sensations de la terreur plutôt qu'il n'exprime l'horreur. Enfin, il exprime un peu l'horreur, faut pas non plus peut-être exagérer, mais en tout cas, il travaille beaucoup sur la sensation de la terreur. C'est-à-dire que l'horreur ne vaut dans le film qu'en tant qu'elle est perçue par les personnages.
Donc si la terreur, voulez. C'est l'horreur rendue perceptible,
voilà,
physiquement voilà. Montrée.
Voilà, exactement. Mmh. Hein, donc il y aurait une sorte de transformation, en quelque sorte, de l'horreur en terreur, puisque cette horreur, elle est en quelque sorte médiatisée par le regard des personnages qui sont un peu spectateur. Enfin, je pense quand même surtout à Danny. Hein. Danny, c'est vraiment une figure de spectateur.
C'est un film qui, depuis 80, n'a cessé de faire couler de l'encre, des exégèses. Il y a même eu un long métrage qui s'appelle Room 237, qui a été consacré aux interprétations les plus farfelues du film. Alors là, dans Room 237, ça va très très loin, mais sans aller jusque-là, c'est vrai qu'en sortant du film, on a envie de se dire, qu'est-ce que ça veut dire? Pour tout vous dire, on a envie de revoir le film. Et ne vous gênez pas si vous avez envie, ce sera quelque chose, forcément, une expérience très forte.
Donc ce serait d'abord un film qui invite à la réflexion sur le temps, c'est ce que vous dites, plus qu'un film d'horreur ou un
voilà.
film...
Voilà, et voilà, et ça explique pour, enfin ça explique que les personnages de Stephen King, qui sont des personnages au contraire très psychologiques, d'ailleurs King a reproché à Kubrick d'avoir complètement passé sous silence ce qu'il appelle le climax passionnel de la fin du roman, avec Jack qui dit à Danny « je t'aime, mon fils », etc. C'est complètement, on est en pleine passion, on est dans les sentiments, on est rien de tel dans le film, hein, qui dépsychologise complètement le récit, les personnages, pour aller, me semble-t-il, du côté de l'abstraction.
Quoi. Mais vous préférez le film au roman, non ?
Ah, ça, oui, ça se sent peut-être.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère,